Dans Matthieu chapitre 16, on est rendu... on est au milieu du chapitre 16, puis on est au milieu, peut-être pas là, si vous comptez le nombre de chapitres et tout ça, mais vraiment, chronologiquement, on est vraiment au milieu de l'évangile de Matthieu. Et en fait, le titre de mon message, ça donne aussi, c'est quoi? C'est le point tournant du ministère de Jésus. Donc, on va lire les versets 13 jusqu'à la fin. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est le point tournant du ministère de Jésus. C'est bien important, vous allez voir. Donc, on est là, Matthieu 16 et le verset 13. « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Et répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, mot bien important ici, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Et ça, ça va donner la transfiguration la semaine prochaine, Dieu voulant. Le point tournant du ministère de Jésus. J'ai déjà fait allusion, je crois, la semaine dernière, mais puis je viens d'en parler un peu brièvement. C'est le cœur même de l'évangile de Matthieu qu'on vient de lire. Et il y a vraiment deux grandes vérités qu'il faut ici retenir. D'abord, ce qui concerne la première venue de Jésus et son œuvre de rédemption, Jésus a souligné qui il est, sa personne. Donc, il dit, qui dites-vous je suis? OK, que disent les hommes et vous, qui dites-vous que je suis? Et là, après ça, il s'est mis, dès lors, verset 21, il s'est mis à parler de son œuvre. Très important, sa personne et son œuvre. Il faisait le point sur sa personne et là, il allait se mettre à parler de son œuvre. Puis, à toutes les fois qu'il parle de sa crucifixion, il parle aussi de la résurrection. Donc, c'était pas genre, l'histoire finit mal. Oui, il y avait de la souffrance qui s'en venait, mais il annonçait aussi la victoire. Et donc, il pensait vraiment à une nouvelle étape dans sa relation avec ses disciples. Il leur révélait donc ces choses nouvelles quant à son œuvre, son expiation, la croix, la résurrection. Puis vraiment, il commence à s'investir en eux de façon beaucoup plus intime. Jésus laisse de côté, en gros, vraiment son ministère public aux foules, okay? Qui était beaucoup l'accent dans les chapitres 1 à 15. Et là, il se met à parler beaucoup plus intimement aux disciples, sauf peut-être chapitre 23, où est-ce que là, il reprend, hein? Vous savez, chapitre 23, c'est quand même malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ce chapitre-là fait l'exception, mais en gros, vraiment, Jésus parle aux disciples. Une autre chose qui est importante à comprendre par rapport au passage qu'on a lu, c'est que Jésus aussi, à partir de ce moment-là, il leur révèle beaucoup c'est quoi les implications d'être un disciple. On l'a vu dans la partie du verset 24, hein? « Si quelqu'un veut venir après moi. » Il y a beaucoup de choses comme ça qui se met à expliquer sur les implications spirituelles et pratiques d'être son disciple. Par exemple, plus loin, chapitre 18, il va dire que ses disciples ont une foi comme un enfant, hein, toute simple, dépendante. Et donc, c'est comme ça qu'on voit avec ces éléments-là pourquoi notre texte d'aujourd'hui est un point tournant, le point tournant dans le ministère de Jésus, parce qu'il marque le début de la préparation intense pour ce qui allait arriver par la suite. Okay? C'est un point tournant où est-ce que là, il laisse le ministère public, il s'investit en eux, puis là vraiment, il s'en va vers la croix et il prépare les disciples à ça. Okay? Parce que son heure approchait. Et savez-vous, c'est pareil pour nous d'une façon. On en est tous conscients, on en parle de différentes façons, mais savez-vous, l'heure de son retour approche vraiment. Moi, en tout cas, je le crois, vraiment. La première venue, c'est réglé, ça fait 2000 ans. Mais la deuxième, je pense qu'on est plus proche qu'on l'a jamais été. Bon, c'est sûr que tu ne te trompes pas quand tu dis ça, là, parce que, tu sais. Mais je pense qu'on est vraiment très, 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 très proche. Sans être un faux prophète, d'ailleurs, je me qualifie vraiment comme faux prophète. Vous rappelez-vous, je faisais des blagues au début 2020. 2020, ça sonne l'année de la fin du monde. Ben, je me suis trompé, parce qu'on est rendu en 2021, puis... En tout cas, peut-être que c'est le début de la fin du monde, mais le Seigneur n'est pas encore venu nous chercher. Puis il peut venir dans 10 ans, là, je veux dire. Comprenez-moi bien, personne ne sait l'heure ou le jour. Mais... Ce que j'aimerais qu'on voit, c'est ça en disant, bon, OK, Jésus, son heure approchait, pour nous, l'heure de son retour approche. Et je pense que de la même façon aussi, Dieu nous prépare. Là, il intensifiait la préparation de ses disciples. Ben Dieu fait ça avec nous en ce moment. Je crois vraiment que depuis un an et demi, Dieu nous prépare. Parce qu'on n'était pas prêts. Je parlais avec frère Campbell. Ça fait longtemps, tu sais, il a été parti un bout de temps, tout ça, puis ça faisait quelques mois qu'on n'avait pas pris un temps vraiment, puis... Souvent, on fait ça, on s'en va, puis, tu sais, au lieu d'être assis devant un bureau, puis on marchait dans la nature, puis ça, on reconnectait après quelques mois. Et là, on parlait de tout ça, on parle tout le temps juste du Seigneur, là, c'était vraiment super agréable. Puis on parlait de ça, justement, tu sais, les circonstances qu'on vit, puis il dit, sais-tu quoi, peut-être que là, un an et demi, quand tu es arrivé, il dit, je pense pas que l'Église était prête. S'il y a eu de la persécution, des choses, tu sais, ce qu'on voit maintenant de plus en plus monter, puis en passant, je pense qu'on est dans un temps de persécution, parce qu'aussitôt qu'il y en a un qui lève le bout du nez, un peu, là, il se fait, tu sais, passer une église comme celle-là de James Cross. Aussitôt que quelqu'un veut sortir des rangs, boum, et tout de suite, l'opposition est féroce et immédiate. Donc, je pense que l'église est en temps de persécution. Si on n'en voit pas plus, je pense que c'est parce qu'on ne se tient pas bien, bien pour essayer. On n'est pas obligé de le faire ici, on n'est pas obligé de mettre une pancarte, on est ouvert, puis on est, OK? Mais il y a quelque chose là-dedans qu'il faut comprendre. Je pense qu'on est vraiment dans des temps uniques où est-ce que Satan s'attaque d'une façon très unique à l'Église de Dieu, à l'Église de Jésus-Christ, mais en même temps, Dieu travaille d'une façon unique. Et vraiment, ça, c'est beau à voir. Et aujourd'hui encore, on en est témoin. Et je pense que donc, on voit Dieu qui nous prépare, Dieu qui nous amène, n'est-ce pas, depuis la dernière année et demie, Dieu nous amène de plus en plus à vivre à la lumière de la croix, vivre à la lumière de l'œuvre accomplie de Christ. Dieu nous montre des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Dieu se révèle à nous, êtes-vous d'accord? Il fait des choses bonnes, il nous prépare. Et donc, il avait fait ça depuis, il y a 2000 ans, et il le fait encore. Donc, je veux juste qu'on regarde simplement dans notre texte après-midi, trois éléments du point tournant du ministère de Jésus. D'abord, on l'a lu dans les versets 13 à 20. Jésus fait un récapitulatif. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'examen de mi-session. Camille, c'est passé, c'est le fun. Camille a fini sa session. Benjamin aussi, mes enfants ont fini l'école. Ah, ils vont commencer à travailler. Mais en tout cas, presque, Benjamin fait son ACT. Mais l'examen de mi-session. Donc, il était au milieu de son ministère. Il dit, OK, sur ma personne, là, qui les gens disent, mais vous, qui dites-vous que je suis? Vous voulez vraiment qu'ils comprennent qu'il est le Messie, celui promis. Et c'est pour ça, Pierre a eu 100% à l'examen. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il avait triché. Parce que son père lui avait révélé. Mais ça, c'est pas grave. On a le droit de tricher dans ce domaine-là. OK? Donc, c'est ça. Jésus, pendant la première partie de son ministère, c'est pas qu'il n'avait pas parlé de son œuvre, mais vraiment, l'accent était sur sa personne. Et là, ça les préparait, ça, à parler de son œuvre. Et je veux amener ce point-là par rapport à ce récapitulatif de Jésus ici. Ça nous montre qu'on n'est pas prêt à ce que Dieu veut nous révéler sur son œuvre, sur ce qu'il veut faire, tant qu'on n'est pas saisi par son esprit par rapport à qui il est. Écoutez bien ça, on n'est pas prêt à ce que Dieu nous prépare pour ce qu'il veut faire si on n'est pas là où il veut qu'on soit par rapport à qui il est. Et je vous explique. Je pense que c'est votre... Regarde. C'est quoi la tendance naturelle, OK? La tendance naturelle, c'est de vouloir voir Dieu faire des affaires. Dieu, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça, puis tout ça. C'est pas la tendance naturelle de juste vouloir connaître Dieu. Autrement dit, notre tendance naturelle, c'est Marthe, c'est pas Marie. OK? Marie qui a choisi la bonne part. OK? En tout cas, il y en a peut-être ici que c'est plus leur tendance naturelle, mais moi, je pense qu'en général, d'après mon observation de la nature humaine, on a plus une tendance à Marthe, n'est-ce pas, qu'à Marie s'asseoir aux pieds de Jésus. OK? On veut le voir en action. On veut voir sa main avant de voir sa face. Pourtant, les deux sont à chercher. Hein? Dieu dit « chercher ma face, chercher ma présence, chercher à me connaître ». Mais pourtant, on ne peut pas reconnaître Dieu en action si on n'a pas appris à le connaître en caractère. Parce que sinon, on s'imagine des affaires. Un très bon exemple, Éric, tu as prié là-dessus. Notre chère Élie qu'on aime donc, qui a fait descendre le feu du ciel, veut dire, il leur a donné une leçon à ces prophètes, à ces prêtres de Baal-là. Puis là, tout Israël est tombé. Hein? C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Hein, ça donne une bonne idée, pas mal, de qui il est, mais Dieu n'avait pas fini de révéler qui il était, parce qu'il voulait le préparer pour ce qui venait après. Et comment que c'est révélé? Avec un gros tremblement de terre, avec du feu, puis non, avec un doux murmure. Puis Dieu se révélait comme ça, parce que Dieu est comme ça, Dieu est doux, Dieu est personnel, et il se révélait comme ça à Élie, parce que ce qui s'en venait pour Élie, il fallait absolument qu'il s'accroche au fait que Dieu était, parce qu'elle allait être bien seule. Il allait avoir des temps pas mal décourageants, puis il fallait qu'il sache que même s'il n'y avait pas les actions d'éclat qu'il avait vues sur Mont Carmel, que Dieu est encore là avec lui, dans un doux murmure léger. Voyez-vous? Non, Élie n'aurait pas été prêt à faire face à ce qui s'en venait par la suite. Il fallait que Dieu se révèle comment cet aspect-là de sa personnalité, parce que est-ce que Dieu est celui qui fait tomber le feu du ciel? Oui, certainement, mais il y a aussi celui qui parle comme un... OK? Puis donc... Pour qu'il soit prêt à ce que Dieu voulait faire, il fallait que Dieu se révèle à lui tel qu'il est comme ça. Et je pense que c'est vraiment ce que Dieu fait avec nous en ce moment. Et à cause de notre nature pécheresse, notre tendance par défaut, si Dieu ne nous faisait pas un récapitulatif, il ne nous ramenait pas tout le temps à lui, à sa personne, à son caractère, on ferait fausse route. Parce qu'on a tendance tout le temps à s'imaginer Dieu selon notre imagination. Qui d'ailleurs, de l'idolâtrie. Hein? Et donc, Dieu a besoin de faire ce récapitulatif dans notre vie. J'aurais peut-être dû prendre un autre mot. Autrement dit, plus Dieu nous révèle sa personne et son caractère, puis qu'on apprécie ça par la foi, plus on est prêt pour ce qu'il y a pour nous autres, pour son œuvre. C'est ça qui est arrivé à Élie. Et c'est ça aussi que Dieu veut faire avec nous autres. La Bible ne dit-elle pas dans Ésaïe 55, versets 8 et 9? Oups! Et où ma feuille de verset? Ici, excusez-moi. Ésaïe 55, ça dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mes amis, il faut que Dieu se révèle à nous par sa parole, par son esprit, parce que sinon, c'est sûr qu'on va errer. Et j'ai dit qu'on allait parler de Josué, c'est comme un mélange de Joshua puis Josué, de Joshua, je départ l'après-midi. Je vous dis, j'ai pas pris d'alcool pour dîner, OK? J'ai peut-être juste de la misère avec mon allocution un petit peu, là, mais bon. On va en parler la semaine prochaine de ce cher Josué. Mais Dieu aussi voulait le préparer. Tu sais, quand Dieu s'est révélé, l'ange de l'Éternel avec son épée à nu, là, il y avait un point important, je pense, je vais le dire la semaine prochaine, mais je vous le dis tout de suite, là. C'est le point le plus important du livre de Josué. Enfin, c'est qui allait conquérir la terre promise? C'est pas Josué, c'est pas Israël, c'était Dieu. Puis il l'avait dit, hein? Puis on voyait qu'il était... Dieu, il était là, prêt à combattre. C'était le point, il se révélait à lui comme celui qui combat. Pensez-vous que ça doit peut-être aider un peu quand c'était le temps qu'à Jéricho, avec l'espèce de plan de fou? Non, c'était vraiment un plan de fou d'une façon, parce que la folie de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. Okay? Puis Dieu, c'est comme ça. Mais encore là, même affaire, il fallait que Dieu se révèle comment il est. Le combattant, l'épée sortie. Après ça, pour ce que Dieu voulait faire avec Jéricho, Josué était prêt. Parce qu'il savait. Voyez-vous, c'est vraiment le principe important. Donc Dieu fait ça aussi dans la vie, le récapitulatif. Et donc, c'est ce qu'il faisait ici avec les apôtres. Deuxième élément que j'aimerais qu'on voit dans ce point tournant du ministère de Jésus, une nouvelle révélation. Des versets 21 à 23, hein, il commence à leur parler de la croix et de la résurrection, donc son œuvre. Et ces versets sont très importants dans le ministère de Jésus. Mais j'aimerais qu'on y voie, il y a un contraste, parce que, bon, évidemment, Jésus parle de la croix, de la résurrection, puis là, Pierre s'en va le reprendre. Puis, je sais pas, j'espère que vous, jamais quelqu'un va vous appeler Satan, là, mais pauvre Pierre, je veux dire, y a-t-il un petit dans ses culottes, le pauvre? Regarde-moi Satan. Mais, on voit un contraste entre deux pensées, c'est parce qu'elle dit, tes pensées sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Et ici, on voit vraiment deux philosophies diamétralement opposées. Celle de Dieu qui est la croix et la résurrection, et celle de l'homme qui est l'autopréservation. Ben voyons donc, tu ne peux pas faire ça, puis la logique humaine. Okay? La voix de Dieu, voici ce qu'elle dit. « Je dois souffrir pour le bien puis le péché des autres. » Ça, c'est la rédemption. Hein? Jésus a souffert pour le bien puis le péché des autres. La voix de l'homme dit « Pourquoi souffrir s'il existe une alternative ?» On peut toujours essayer de trouver une porte de sortie. Hein? Ça, c'est l'instinct de préservation, l'égocentrisme. C.S. Lewis a dit, « L'opposé de l'amour, ce n'est pas la haine, mais l'indifférence. » Oui, c'est ça. J'espère que je ne l'ai pas... Oui, je l'ai bien. L'opposé de la haine, c'est... Parce qu'Amie, elle a lu « Mere Christianity » dernièrement. J'espère que je n'ai pas mal cité M. Lewis. Il va s'en virer dans sa tombe. Non, mais c'est ça qu'il a dit. Je me rappelle plus, je l'ai pris où, par exemple. Mais il a dit ça, OK? J'ai entendu ça quelque part, sinon, ben, c'est pas grave, c'est moi qui le dis. OK? Parce que ça a vraiment du bon sens. L'opposé de l'amour, c'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est-à-dire, ici, on voit Pierre passer à côté de l'œuvre de Christ qui est en train de révéler parce que ils ne comprenaient pas cette croix, ils ne comprenaient pas cette rédemption. C'est pour ça qu'il fallait que Jésus les en parle et tout ça. Juste pour vous aider à comprendre, je vous donne une couple de versets par rapport. Regardez ce qui était dans le cœur de Jésus en arrière de ce qu'il lui dit. Ça nous parle d'Hébreux, ça dit que, bon, on doit avoir les regards sur Jésus qui suscite la foi et la main de la perfection. Mais ici, Jésus, là, en échange de la joie qui lui était réservée, c'est-à-dire la joie d'accomplir la rédemption, la joie de la délivrance, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. C'est ça. La pensée de Dieu. La souffrance a un but. La souffrance a un but rédempteur. Mais la voix de l'homme, regardez plutôt ce qu'elle dit. Regardez dans... Non, je n'ai pas mis la bonne référence. C'est ça? Non? On va aller voir, c'est dans Matthieu. Ah, ben oui, c'est ça. Mais oui, évidemment, on l'a sous les yeux. Elle dit... la pensée de l'homme. Alors, Jésus dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera, la trouvera. » La pensée de l'homme a dit, « Je ne peux pas perdre ma vie. Voyons, je ne peux pas perdre ça. » Et donc, c'est vraiment deux pensées complètement opposées l'une à l'autre. Et c'est celle de Dieu qui est la seule qui est bonne. Et juste, j'amène ces contrastes-là, après-midi, pour nous rappeler que la vraie vie chrétienne consiste en un échange. Puis ça, c'est vraiment, je parlais de gagnant-gagnant ce matin, tu donnes ton pire, tu donnes ton échec, puis tu prends le meilleur de Dieu, sa victoire. C'est ça, l'échange de la vie chrétienne. En échange, Jésus, en échange de la joie qui était réservée, il a souffert la croix, l'ignominie. Mais nous, à cause de ça, on peut bénéficier de l'échange qu'on donne à Dieu, nos souffrances, nos péchés, nos fardeaux, nos peurs. Puis on a sa joie, sa paix, sa grâce, tout ce dont on a besoin. C'est ça l'essence de la vie chrétienne. Et donc, la voix de Dieu, c'est celle de la vraie joie. Celle de l'homme, c'est la fausse. Et remarquez, dans les versets qu'on considère, que tout ça est une continuité. On parlait du récapitulatif de Jésus à partir de ce moment-là, qui ne se concentre plus autant sur les multitudes, mais qui vraiment se concentre sur les disciples. Pourquoi? Parce que en leur donnant cette nouvelle révélation, c'était pour eux. Je veux dire, le monde n'était pas prêt pour ça. Et là, je vais amener un point par rapport à ça. Jésus s'est mis à se dévouer vraiment, à les préparer à ce qu'on appelle la passion, hein? La mort sur la croix, puis tout ça, la résurrection. Donc, à partir de ce moment-là, Jésus dévoile, révèle des choses par rapport à son plan rédempteur, à la rédemption. Il révèle ça à ses disciples, mais à ceux qui l'ont rejeté, il ne lui parle plus. Presque plus. Ou en parole, vraiment pour dire malheur à vous, de condamnation parce qu'ils ont rejeté. Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. On voit que Dieu révèle plus à ceux qu'il cherche, mais moins à ceux qui rejettent la lumière qu'ils ont reçue. Il y a quelque chose d'effroyable à ça. Mes amis, si on entend la voix, n'endurcissons pas le cœur. Et donc, c'est vraiment ici, si Dieu nous donne une nouvelle révélation, en ce moment, je pense que Dieu nous révèle déjà. Puis là, quand je dis une nouvelle révélation, c'est pas qu'on a une Bible à côté de la Bible, là, mais il nous ouvre les yeux sur sa parole. Mes amis, on doit répondre à ça. Et savez-vous, quand on répond, je pense que ce qu'on voit, il y a des bénédictions, c'est parce qu'on répond à ce que Dieu nous montre. Mes amis, il ne faut pas que ça arrête. C'est trop beau. Il faut que ça continue. Et ça, c'est par la foi. Est-ce qu'on croit que Dieu peut amener encore des gens? Est-ce qu'on croit que Dieu peut transformer des vies, peut sauver? Il y a pas mal de monde, on ferait le tour, là. Pas mal de monde qu'on aimerait donc voir sauver, qui ne sont pas encore. Dieu est capable, puis Dieu se révèle à nous comme celui qui sauve, comme celui avec qui il y a de l'espérance, qu'il n'y a pas de situation qui est trop difficile, trop désespérée pour lui. Donc, ça m'amène au dernier point cet après-midi. Non seulement il y avait un récapitulatif, bon, c'est la dernière fois que je dis ce mot-là, une nouvelle révélation, mais il y avait aussi une nouvelle norme. Oh, l'as-tu entendu celle-là? La nouvelle normale. Mais celle-là, c'est une bonne. Parce que, bon, Jésus dit, quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même. Ça, c'est la nouvelle normale selon Jésus. Et celle-là, elle est bonne parce qu'elle est de Dieu. Celle qu'on vit en ce moment, là, la nouvelle normale, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne la trouve pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'homme. OK? Mais au contraire, avec Dieu, ça ne peut être que bon parce que Dieu est toujours bon. La voix de Dieu, quand je dis bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, mais que même dans la souffrance, Dieu en fait sortir des trésors, des choses précieuses. Parce que ça peut être le cas que Dieu veut pour un temps qu'on passe par des épreuves, des souffrances, mais dans le fond, la seule chose que Dieu désire avec ça, c'est nous disposer à faire toute sa volonté. D'ailleurs, c'est une belle requête de prière. Regardez comment Epaphras priait. Epaphras qui est des vôtres, dans Colossiens 4:12. Vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits ou matures, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et donc, la nouvelle norme avec Dieu, c'est de prendre plaisir à ses voix, de voir que ses voix sont toujours bonnes. Non, pas toujours agréables à la chair. Comme je dis, je pense qu'on a une bonne. Vraiment, on vit des choses. En 2020-2021, on peut dire, est-ce que ça a été agréable à notre chair? Est-ce que ça a été agréable à nos pensées? Non. Mais est-ce que si on se soumet à Dieu, comme on l'a dit ce matin, si on se met sous le contrôle du Saint-Esprit, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle norme d'apprendre à vivre comme ça par la grâce de Dieu? Au moins de la foi? Absolument. Ça valait-tu la peine? Oui. Dieu a décidé comme ça. Savez-vous quoi? Tant mieux. C'est le chemin qu'il a décidé pour nous autres. Puis ce qui en ressort, c'est beau. Pourquoi? Parce que c'est de Dieu. Et tu sais, on a vu ce matin, hein, puis c'est comme c'est drôle parce que je pense que c'est un verset vraiment que Dieu veut qu'on médite aujourd'hui. Ça dit dans Colossiens 3, 1 et 2, « Sinon vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Autrement dit, c'est comme ma motivation. Est-ce que je suis motivé, je suis dirigé par ce qui est éternel ou par ce qui est temporaire? Pour prendre un autre passage dans ce sens-là, vous connaissez 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mes amis, Dieu nous appelle avec ce qu'il fait à une nouvelle norme, ou pour le dire dans les mots de Paul, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis encore, excusez, j'ai manqué un bout de mon verset. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça la nouvelle norme. Puis elle est bonne, elle n'est que bonne. Et c'est à ça que Jésus les amenait. On sait, c'est le Nouveau Testament, le tout début du Nouveau Testament. On sait qu'il y avait des choses, le Saint-Esprit n'était pas encore venu, mais Jésus les amenait à ça. Comme Jésus, dans Jean 15, leur parle de l'union avec Christ. Il introduisait ces choses. La voix de Dieu nous dit la seule réponse à la croix. Tu sais, quand on est saisi comme Paul qui dit « Je veux rien savoir parmi vous, sauf Christ et Christ crucifié. » Donc, la seule réponse à la grandeur de la croix, c'est de vouloir accomplir la volonté de Dieu et que ça veut dire la souffrance ou non. Peu importe, parce que avec tant d'amour, avec un tel sacrifice, la réponse est « Seigneur, fais ce que tu veux. » C'est ça la nouvelle norme. Vive à la lumière de la croix, de l'œuvre accomplie et parfaite de Jésus-Christ. Ça change absolument tout. Donc, on connaît c'est quoi la nouvelle norme du monde? Où est-ce que Satan contrôle? Il y a tout un système de mensonges, de tromperies qui est destructeur. Mais la nouvelle norme de Dieu, c'est être sous son contrôle, par son esprit et sa parole, et ce n'est que vérité, bienveillance, édification. Et pour ramener un autre verset des Écritures qui est tellement beau, dans 2 Pierre, chapitre 3, et le verset 18, « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Donc, c'est quoi qu'on veut? Est-ce qu'on veut la norme des hommes ou est-ce qu'on veut la norme de Dieu? Je pense qu'il y a quelque chose de beau aussi là-dedans. On voit la norme des hommes, mes amis. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'en ai complètement dégoût. Peut-être que si avant j'aurais eu le goût, là je me rends compte, non mes amis, la norme des hommes, il n'y a rien de bon, mais celle de Dieu, oh mes amis, je la désire plus que jamais. Et donc c'est quoi que je veux? Est-ce que je suis trompé en ne reconnaissant pas le subterfuge de Satan qui exige la soumission, la loyauté inconditionnelle et incontestée à son système corrompu? Ou est-ce que je me soumets à celui de Dieu? Vous savez, je pense que ça amène une nouvelle lumière à ce verset des Écritures. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mes amis, Jésus a dit ça dans le sermon sur la montagne, au tout début de son ministère. Mais je pense que ça a un nouveau sens dans la réalité qu'on est en train de vivre. Vous savez, on a pris position comme Église de se soumettre à Dieu plutôt qu'aux hommes. On croit à Romains 13, on croit à 1 Pierre chapitre 2, on croit qu'on doit se soumettre aux autorités qui sont désignées par Dieu, mais on croit où est-ce qu'il y a un moment où est-ce qu'il y a un conflit entre les deux, où est-ce qu'il faut choisir entre l'un et l'autre, on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. OK? Et voici le point que je veux amener avec ça. On parle de nouvelles normes. Vous savez que Satan voudrait usurper la loyauté du peuple de Dieu envers sa tête, envers son Seigneur. En ce moment, on vit ça, là. C'est pas quelque chose de secondaire. Je pense que ça va au-delà des opinions. Tu sais, on parlait tantôt, là, au dîner, ah, juste pour une petite poignée d'encens, puis à dire « César et Seigneur », un chrétien pouvait finir dans l'arène, puis avec les gladiateurs ou les bêtes sauvages. Oh, c'est juste un petit geste. Il était prêt à mourir pour ça. Pourquoi? Par cause de la signification qui est attachée à ça. Mais pour nous, Si je parle de nouvelle norme ou la norme que Jésus a établie de le suivre, d'être prêt à renoncer à nous-mêmes, que notre vie n'est plus la nôtre, on ne s'appartient pas à nous-mêmes, on appartient à Christ, c'est là notre loyauté. Et mes amis, ça, rien ne doit l'enlever. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Et mes amis, c'est vraiment une question fondamentale. Et je pense que Dieu met l'Église face à ça. Face à ce choix. Puis comprenez, là, je dis pas, je veux pas être méprisant et tout ça, mais je veux, tu sais, faut voir, je pense que c'est ça qui est vraiment en jeu. Où est notre loyauté? Parce que Satan, c'est toujours ce qu'il veut, il veut toujours s'attaquer à Christ. Il veut toujours s'attaquer à celui qui est le chef d'église. Et là, il voudrait que ceux qui se disent de son corps, et OK, qui changent de loyauté. Ça, il n'importe plus à où cette loyauté, qu'elle soit à nous-mêmes, qu'elle soit à un gouvernement, qu'elle soit... En autant qu'elle parle à Jésus-Christ, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un autre de ces trucs pour essayer de nous détourner de celui qui est la tête et le chef de l'Église. Et mes amis, un point là-dessus, si on ne prend pas position, savez-vous quoi? Automatiquement, on prend position, on devient des facilitateurs. Si ce n'est pas des actifs participants au système de Satan pour usurper l'autorité de Dieu. Autrement dit, là, si on ne prend pas une position de dire nous allons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et dans le bon esprit, de la bonne façon, on prend position pour dire, ben, OK, que la voie de Satan s'accomplisse. Comprenez-vous, il y a quelque chose de grand qui est en jeu ici. Puis là, on parle dans un certain domaine. Dans notre société puis tout ça, mais savez-vous, dans le domaine spirituel, tu sais, mettons moi je vais au magasin, là, je veux dire, je commence pas à me battre, moi, puis je veux dire, je mets mon masque, là, puis je fais les affaires, puis même chose quand je vais au ministère de prison puis tout ça. Mais je pense, quand on parle de loyauté puis tout ça, comprenons, si je prends pas position spirituellement, par exemple, si je suis dirigé par la peur, par la crainte, même si je fais les affaires extérieures et tout ça, savez-vous que quand j'arrive et que je suis dans l'église en relation avec des personnes, ça l'infecte les autres. Mais fait, c'est pas une affaire de ce que je fais extérieurement, c'est la disposition de mon cœur par rapport à ça. Pour ça, je dis, où ma loyauté? Parce que ça l'affecte, c'est spirituel. Ça s'infiltre partout, dans toutes les relations, dans tous les domaines. Et donc, je veux terminer avec ça cet après-midi. Jésus était au point tournant dans son ministère avec les disciples. Et je crois vraiment qu'il est avec nous en ce moment. Parce que pensez à ça. Okay, on vient de regarder un passage d'Écriture où est-ce qu'on voit des éléments importants. Hein? Le récapitulatif, la nouvelle révélation, la nouvelle norme. Mais regardez comment je vois ça même dans la vie de notre Église. N'est-ce pas que Jésus, à travers... Tu sais, c'était quoi le thème 2021? Voici ton Dieu. Est-ce que c'est pas Dieu qui faisait un récapitulatif pour notre Église? Hey, savez-vous en qui vous croyez? Avez-vous considéré qui je suis? C'est grave quand on regarde ça avec le recul, dit, man, Dieu me ramène à lui. Voici ton Dieu. Ben oui. Tu sais, puis c'est pas, j'ai pas eu une vision, puis tout ça, mais pendant que Dieu a dirigé qu'on aille le thème pour 2020, voici ton Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous ramenait à sa personne. Pourquoi? Parce qu'il nous préparait à son œuvre qu'il voulait faire. Fait que vraiment, on le voit, puis Dieu nous donne des nouvelles, puis là, je fais attention aux mots, là, nouvelles révélations, pas dans le sens que c'est nouveau, mais il nous a ouvert les yeux sur des choses qu'on ne voyait pas. Sur la splendeur de Christ, puis son œuvre, puis toutes les choses qui sont en lui. N'est-ce pas aussi ce qu'il nous a montré? Donc, il nous a ouvert les yeux sur qui il est, parce qu'il voulait nous montrer ce qu'il avait fait. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai une nouvelle appréciation de la rédemption, de la croix, de la résurrection. Et je pense que tout ça, ça va ensemble. Et Dieu nous amène à cette nouvelle norme, la norme de la vie ressuscitée. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la vie de Christ. Dieu nous amène. Fait que voyez-vous, ce qu'on voit ici qu'il faisait avec les disciples, il fait exactement la même chose avec nous autres. C'est incroyable. Et ça, ça veut dire une simple chose, après-midi, c'est que si Dieu a tout fait ça, si Dieu est tellement bon envers nous autres en faisant toutes ces choses, On a simplement à répondre à ça, à embarquer là-dedans, dire « Wow, Seigneur, ah oui, j'en veux plus, je veux plus de toi. » C'est tout ce qu'il nous demande, juste d'y faire confiance. « Vous avez vu ce que j'ai commencé? Je vais le rendre parfait jusqu'au jour de Christ. Je suis fidèle. Ah, vous ne l'êtes pas tout le temps, mais il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. » Dieu est bon. Pourquoi qu'on n'invoquera pas ce Dieu qui peut faire, selon sa parole, ça dit, des choses grandes et cachées qu'on ne connaît même pas. Celui qui peut faire en nous infiniment, au-delà de tout ce qu'on demande et ce qu'on, même qu'on pense. Wow! Moi, je suis tellement... Puis encore un matin, il y a un nouveau niveau. La semaine passée, puis wow, Dieu, ça commence à déborder. Là. Il amène des gens dans l'église demain. C'est extraordinaire. Avez-vous comment c'est tout Dieu qui a fait ça? Je pense qu'on n'était pas prêts l'année passée, mais Dieu, dans sa bonté, il est en train de faire ça. Ce qu'il fait avec les jeunes, c'est beau ce qu'il fait avec les jeunes. Continuez dans ce sens-là. Écoutez le Seigneur, embarquez dans ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Ça l'amène des gens de même. Savez-vous quoi? C'est à vous qui les amène. C'est à vous qui les amène. C'est votre ministère, c'est vos gens qui vous amènent. Bon, on est content aussi de les avoir pu lui parler, là. Mais il y a quelque chose. Dieu vous, vous embarque aussi là-dedans. Dieu fait toutes choses à merveille. Extraordinaire. Il peut faire ça avec ta famille, tes enfants, frère. On prie pour ça, on a prié pour toi hier. Puis tes enfants, ta femme. On n'arrêtera pas non plus. Amen. Seigneur, on veut vraiment te louer, te remercier pour ta bonté et ta grâce. Tu es si bon et tu es vrai. Tout ce que tu fais, c'est vrai. C'est pas du fake. C'est pas de l'artifice pour du tape à l'œil. C'est profond dans les cœurs. C'est quelque chose d'authentique qui fait que même quand il y a un combat, où est-ce que les gens luttent et ils ne voudraient pas, Seigneur, tu es vainqueur et tu fais des choses, Seigneur, qui sont tellement extraordinaires. On veut vraiment te bénir, louer ton nom, Seigneur, parce que vraiment tes voies sont les meilleures. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Seigneur, on veut continuer à raconter tes œuvres. Merci que tu te révèles à nous afin de nous préparer à ce que tu veux faire. Merci, Seigneur, que ce que tu veux faire, c'est pour nous embarquer dans ta nouvelle norme, dans la vie par la foi, la vie de Christ ressuscité en nous. Merci pour ça, Seigneur. C'est tellement extraordinaire. On veut juste venir à toi comme ça en disant, continue. Lâche-nous pas, on s'accroche à toi parce que tu es notre vie. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen.